On va aller beaucoup plus vite un peu sur cette partie-là. Bon, juste si vous voulez, je ne sais pas si vous êtes d'accord hein, avec ce passage de ce monde-là, disons, dans lequel, si vous voulez, vous aviez, en gros, c'est un peu simplifié, vous aviez Fiat en bas, Renault au milieu, Mercedes en haut, quoi. Bon, un monde qui a plus, donc, beaucoup plus la forme d'un sablier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le sablier, si vous voulez? C'est qu'il y a une espèce d'alliance objective entre le haut du sablier et le bas du sablier. Ce qui pose un gros problème au milieu, quoi. Bon, du sablier, quoi. Hein? Bon, je vous donne un petit exemple, parce que moi je regarde un peu ces trucs-là pour les études du Angers, de l'Institut français de la mode. Bon, vous prenez un truc comme H&M. Bon, H&M, en fait, c'est, vous voyez, une marque de vêtements assez pas chère, plutôt low cost, quoi. Mais évidemment, H&M, qu'est-ce qu'ils font depuis quelques années? Ils s'allient systématiquement avec, pour des petites séries. Alors, ils ont commencé avec Karl Lagerfeld, et puis l'année d'après, ils ont fait avec Stella McCartney, puis avec Comme des garçons, puis cette année, ils le font avec Sonia Riquel, etc. Donc, c'est le bas du sablier, si vous voulez, qui s'allie avec le haut du sablier. Alors, évidemment, le problème, c'est tous les gens qui sont au milieu, quoi. Parce que eux, bon. Puis, c'est vrai aussi, c'est vrai, alors, à plus forte raison, dans le monde de l'information et du cognitif, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire, quoi. C'est-à-dire, vous avez le haut du sablier sous les deux. Apple, hein, qui a besoin des phénomènes de type open innovation pour pouvoir créer son effet de radio et pour pouvoir diffuser très largement. Donc à ça, ça pose, alors on va passer plus en temps, on va en parler pendant des heures, ça pose l'énorme question sociologique là, qui agite tout le monde sur les classes moyennes à la dérive, qui n'ont plus de représentation d'elles-mêmes et tout.
Et de l'autre côté, sur le fait que la creative class, qui est une terminologie plus intéressante que la nominale terminologie bobo française, parce que ça dispense les gens qui n'osent pas l'anglais de dire qu'ils n'ont jamais vu Florida et ils ont dit bobo, donc ça. Bon. C'est tout à fait le phénomène qu'on a dans la creative class qui est à la fois qui participe des phénomènes les plus élitistes, les plus modernes, les plus snobs, et en même temps. Qui comporte une sacrée dose de précarisation sociale qui l'a fait côtoyer
le précariat.
Le précariat. Et donc c'est l'alliance des deux qui est étrange. Et là-dedans, tout ce qui se passe, tout ce qui est classiquement remis en cause, c'est l'emploi pépère salarié du cadre moyen ou de l'employé moyen.
Bon, ensuite je vais juste pour poser ça, moi j'utilise ça souvent quand je discute avec des gens qui sont dans les histoires de marques, notamment, mais pas seulement en fait. Bon, on pourrait faire un développement philosophique d'ailleurs, tout ça, mais on n'a pas beaucoup de temps sur cette histoire de triangle là. Bon, moi je vois ça comme ça, mais c'est juste moi, hein, c'est pas du tout, vous pouvez voir ça autrement. Moi j'ai cette impression là. C'est notamment depuis la crise, là, hein, depuis septembre 2008, il y a une accentuation de ce phénomène. C'est-à-dire que vous avez trois positions qui sont à la fois en guerre les unes par rapport aux autres et qui en recherchent de complémentarité. Et ces trois positions, moi, je les définis un peu comme ça. Bon, vous avez d'un côté la question patrimoniale, c'est-à-dire alors, l'essentiel de la valeur, c'est dans les actifs. C'est de venir dans une discussion politique, par exemple, c'est back to basics, retour à l'industrie, on arrête la creative class, les produits dérivés, tout ça, et on retourne vraiment à la valeur du travail, à une reprenne.
La France qui se lève tôt.
Etc. Et puis, voyez bien qu'il y a une énorme bataille financière aussi derrière, hein, parce que c'est une grande bataille comptable de ces dernières années. Sur la question de l'évaluation de la valeur. Hein. Est-ce que la valeur, c'est essentiellement le coût historique et la question patrimoniale, ou bien est-ce que la valeur, c'est plutôt la faire-value, la valeur de marché, hein. Ça a été pour ceux qui ont fait l'institut, c'est une immense bataille, hein, un peu trop entre experts, sur à la fois les normes comptables et la relation entre comptabilité, finalement. Et puis il y a un deuxième côté. Alors il y a un deuxième côté qui ne cesse de prendre de l'ampleur, quoi. Qui est de dire quoi? Le problème, c'est pas tellement
d'être un annonceur-offreur, le problème, c'est de réussir à s'insérer dans quelque chose.
Oui, à la limite, cette abstraction de ce qui a écrit sur le triangle, il y a une différence entre dire je suis un offreur et puis dire moi, je ne suis pas un offreur. Ce que je fais, c'est que je m'insère dans quelque chose. Ce n'est pas du tout la même posture. Bon. Donc, c'est la capacité à s'insérer dans des usages, des valeurs de commons, hein, de biens collectifs. C'est l'idée que, si vous voulez, en quelque sorte, l'externalité précède à l'offre. Alors ça, évidemment, ça paraît bête, mais là, c'est, vous voyez bien que c'est un imaginaire extrêmement puissant, parce que c'est tout l'imaginaire écologique qui est entièrement nourri par ça, hein, par cette matrice. Et puis, ça donne, dans les histoires d'entreprise, le passage, disons, du registre du développement durable à l'éco-conception. Hein, ce n'est pas du tout la même chose dans l'énergie. C'est dans le développement durable, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous consommez, vous savez que votre consommation a des impacts positifs et négatifs, mais vous dites que ce n'est pas vraiment votre problème, parce que vous prêtez à l'institution, que ce soit à l'entreprise ou le régulateur public, le rôle de corriger ces impacts négatifs. Alors que dans l'éco-conception, c'est le mouvement inverse, vous incorporez directement dans le produit la capacité à limiter les impacts. Et vous voyez, on est en train de passer, il me semble bien, d'un régime, disons, de développement durable dans lequel les problèmes de régulation, notamment des externalités négatives, sont plutôt macro, à un régime d'éco-conception. Alors, ça devient d'élargir par le problème de la valeur ajoutée de conception. Bon, et puis, il y a un troisième côté qui est, en quelque sorte, le problème de tout cet imaginaire de l'interactivité. Hein, que de dire, en fait, l'interactivité, c'est comme c'est un horizon de dépassement de la différence entre l'offre et la demande. Si vous êtes dans un monde d'interactivité complète, si vous voulez, vous n'avez plus à faire de différence entre les stocks d'offres d'un côté et les stocks de demande de l'autre. Hein, et si vous êtes vraiment dans l'interactivité, ça abolit la différence entre l'offre et la demande, en quelque sorte, quoi. Enfin, dans l'imaginaire. Hein. Bon, et donc, ça ouvre la voie à toute la question de la singularisation, de la personnalisation, à la simplification de l'accès, la proposition de solutions et le bouquet de services singulier, hyper adapté. Quoi. Alors, vous voyez bien que c'est, ça n'arrête pas de discuter et de se contredire. Hein. Puisque là, c'est l'économie patrimoniale, disons, hein, classique. Là, vous avez la constitution de valeurs de bien commun et de bien collectif, ce qu'on disait un peu hier, c'est-à-dire les valeurs très fortes d'un point de vue conceptuel de non-rivalité, non-excluabilité et puis non-séparabilité hein, de ces biens collectifs. Alors que là, vous avez le passage, si je caricature, de l'individu au singulier, quoi, de l'individuel au singulier. Hein, ce qui n'est pas la même chose. Pour l'individuel, il y a toujours une substituabilité d'un individu par rapport à un autre. Alors que quand on est dans le singulier, il n'y a plus de substituabilité. Hein. C'est un peu ça le problème. Bon. Alors, pour le simplifier, ça, je vous donne un exemple simple. Bon, dans le monde des réseaux, vous voyez bien qu'il y a trois imaginaires qui sont très puissants. Les trois sont très puissants. Hein. Sont en lutte et en même temps complémentarité. L'imaginaire, disons, le réseau à la papa, quoi. Hein. C'est les bousous, quoi. C'est le Rotary Club, ceci. Le réseau à la papa. Il faut en être, il faut être coopté comme on en est, les fêtes club à l'ancienne. Hein. Et puis, vous avez l'imaginaire du réseau qui fabrique du commons, du commonwealth, quoi. Typiquement, c'est le paradigme de ça, c'est Wikipédia, qui est l'encyclopédie complète, une personne et tout. Mais vous voyez bien que dans Wikipédia, les gens ne signent pas leurs contributions ni leurs articles, parce qu'ils créent du collectif de façon incrémentale, ils n'arrêtent pas de le déposer, etc. Puis ça, c'est un troisième imaginaire, en quelque sorte, qui est celui de Facebook, quoi. L'ego-casting, la singularisation et tout. Bon, vous voyez bien que les trois sont un peu en lutte, quoi. Hein? Alors, moi, ça m'a pas mal intéressé, j'en dis juste un mot, mais très rapide, parce que j'ai travaillé beaucoup pour la, ces derniers mois pour le plan stratégique du groupe La Poste. Bon, qui en France, c'est le premier employeur français, hein, c'est une grosse entreprise. Bon, à La Poste, c'est La Poste. Bon, alors on a travaillé ensemble avec eux, puis on est arrivé à ça, un peu, cette conclusion-là, vous voyez. C'est-à-dire, c'est un business case, hein, si vous voulez. Bon, alors, on s'est dit, en fait, il y a plus trois dimensions. Il y a le capital de confiance, parce que depuis la crise, depuis septembre 2008, les gens de La Poste sont de plus en plus inquiets, parce que ils voient que le capital de confiance de la marque de La Poste est de plus en plus élevé. Ils obtiennent des scores en termes de confiance qui sont démesurés. Quoi. À quel point, je ne devrais pas dire ça, hein, ça leur fait peur. Quoi. Hein. Alors, ils prennent tellement de confiance qu'ils sont morts en fait. Bon. Et puis.
C'est des 24 000. Elle était très impressionnée par La Poste en 1905 à son passage à Paris et qui disait qu'il fallait calquer le fonctionnement de la future. Enfin, la futurologie révolutionnaire, une partie de génie sur La Poste.
Bon, puis de ce côté-là, si vous voulez, ils ont un peu cette question du commun, quoi. Alors, vous avez vu dans les journaux et tout, hein, les articles très transparents, conformes à ce que moi j'ai vu aussi, tout le débat sur est-ce que c'est une entreprise privée, une entreprise publique, le changement statutaire qui est la conséquence de ce débat et tout, hein, tout ça. Et puis, le problème principal, comment passer du statut d'entreprise industrielle au statut d'acteur central de la noosphère. La noosphère.
Bon. Ben, c'est l'ensemble des échanges culturels, intellectuels, linguistiques, relationnels, affectifs, qui concernent les bipèdes et les sans plus humains, c'est-à-dire celui qui partage 98,5% des gènes avec. Des chimpanzés et 97,5% des gènes avec la mouche drosophile, et néanmoins a une certaine particularité que nous lui reconnaissons, puisque l'homme est à la fois appartient à la biosphère sur le plan probablement des gènes à 98%, mais il appartient pour le 1,5% de gènes restants et la suite à quelque chose d'assez particulier qui est la sphère des échanges culturels, linguistiques, interactifs, etc.
C'est cognitif, quoi. Hein, c'est ce que Yann appelle le capitalisme cognitif.
Quand vous dites qu'on est diplôme, je suppose que c'est le numérique qui aura finalement un
homme. Non, non, je dis l'homme, l'être, le queer, tout ce que vous voulez. Hein. Les gens qui pensent qu'ils ont un sexe, ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas, ceux qui pensent qu'ils en ont deux, n'importe quoi, enfin, c'est l'ensemble de ce qui n'est pas chimpanzé ou enfin, ce qui est notre plus proche ou cousin, et toute la suite évidemment des vivants jusqu'au colporte de la métamorphose de Kafka.
Bon, et puis le troisième point, si vous voulez, le troisième côté sur lequel on s'est vraiment interrogé beaucoup. Alors on l'a appelé comme ça, on l'a appelé il y a deux problèmes qui sont les mêmes en fait, hein, c'est comment convertir les valeurs de proximité spatiale.
Ils ont plus de réseau, hein, 18 000 postes en France,
en valeur d'accès.
Ah, ils sont beaucoup plus temporels, hein, que spatiales.
Sachant qu'ils ont été dépliés grâce à la scission de l'avec Orange, enfin, la poste a été cassée, hein, puisqu'elle comptait le téléphone, et qu'elle a perdu le téléphone, et qu'effectivement, tout ce qui est temporal a été fructifié par Orange.
Et puis, du coup, si vous voulez, la question, alors un peu alambiquée qu'on s'est posée, j'explique en un mot, c'est ça. Comment situer la convergence des flux numériques et physiques et devenir un tiers de conscience centrale du 3.0.
Bon alors,
on a un truc 3.0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 3.0
de sublime du
jardin. Oui, mais alors, le 3.0, c'est la même chose que cette histoire-là. Bon, alors, le 1.0, vous avez en fait une généralisation de l'accès à l'information. C'est le 1.0. Le 2.0, il y a une généralisation de l'interactivité. Hein, c'est-à-dire en fait. Les directives qui se font raconter, c'est eux le fait que on a de moins en moins franchement la différence entre les producteurs d'un côté et les consommateurs de l'autre. C'est-à-dire cette différence entre les consommateurs d'un côté et les producteurs de l'autre est de plus en plus floue. Et donc, du coup, on est en deux temps. Il y en a un, vous connaissez peut-être de Rifkin, là, il avait appelé ça l'âge de l'accès. Hein? Dans l'âge de l'accès, le problème, c'est que les gens deviennent tous des users.
Ce qui correspond à un déclin, si vous voulez, des valeurs de ce qu'on appelait la mousous, la transférabilité des biens en possession du capital, au profit de l'usage du bien ou des mousous directs ou des revenus qu'on peut tirer de l'usage du bien, donc usufruit.
Vous dites,
c'est ça les valeurs dominantes, beaucoup plus que celui aujourd'hui, celui qui va compter, y compris dans le monde industriel. C'est pas forcément celui qui détient la propriété du capital, les biens matériels, etc. Ça va être plus celui qui contrôle l'accès.
Qui contrôle l'accès et
d'où la théorie du lean capital. Le lean capital, si on fait maigrir la part de ce capital énorme qui servait plutôt à l'assurance de transférer au profit des usages. Et de la captation des usages. Et celui qui se met en position de capter des usages va générer les plus grands flux de revenus. Donc, en termes d'accumulation de capital, il est plus intéressant que la vision patrimoniale qui compte ses machines et son coût d'acquisition historique. Ce qu'on appelle la vision donc patrimonialiste et propriétariste, essentiellement liée à la propriété du capital, comme part.
Alors, le 3.0, c'est encore un autre truc. C'est ce qui correspond à ce que les gens maintenant appellent un peu le cloud computing. Hein? Alors, comment on pourrait le définir? Bon, dans le 2.0, vous avez une pollinisation généralisée, c'est-à-dire tout le monde pollinise un peu, sans tellement prêter attention aux traces de pollinisation laissées.
Autrement dit, des cookies, techniques dans le langage de ce que vous faites quand vous rendez sur le.
Alors que, qu'est-ce que c'est un problème de type 3.0? C'est la capacité qu'ont les gens à un moment donné à vouloir se réapproprier leur propre tour d'expérience numérique à eux. Hein? C'est ça le problème. C'est-à-dire, je vous donne un exemple hyper simple, moi qui m'avait frappé, qui avait trop peu commenté, c'est au moment de l'effet de réseau Facebook, l'effet de réseau qui s'est constitué, je dirais normalement, l'effet de réseau classique. Hop, ça commence faiblement, et hop, tout d'un coup, paf, tout le monde se met sur Facebook d'un coup. Bon, à tel point que désormais, Facebook est passé en train de. Le nombre de clics, de ce qu'on a mis sur le CISAM, devant.
Vous êtes passé combien? Bon, aux États-Unis.
Oui, aux États-Unis. Bon. Mais, vous voyez bien ce qui s'est passé dans Facebook, il n'y a pas très longtemps, il y a un an et demi, il y a un an. À l'intérieur de Facebook, il y a un autre effet de réseau, un peu après. Les gens se sont mis à contrôler leur profil. Fonctionnalité qu'ils n'utilisaient pas du tout au début de Facebook. Ah, d'un coup, les gens se sont mis à paramétrer les conditions d'accès à leurs informations et à leur profil. Et puis désormais, sur Facebook, pratiquement tout le monde a clôturé son profil. Il y a beaucoup de gens qui ont un profil ouvert. Sofiane, évidemment. Bon, alors ça, c'est un problème de type 3.0. Hein? Le problème central du 3.0, c'est quoi? C'est le concept de la personnalité numérique. C'est le problème de la convergence complète de l'ensemble des données personnelles, intimes, administratives, etc., dans un cloud personnel auquel vous avez accès. Quoi. Bon. Mais le truc, c'est que ce truc-là ne peut fonctionner que si vous avez un tiers de confiance très puissant. En gros, vous n'allez pas confier vos données personnelles réputées à une entreprise commerçante, par exemple, commerciale, ou excessivement commerciale. Et puis vous n'allez pas non plus confier toutes vos données et tout à une entreprise trop hégémonique.
Ni au Google, par exemple.
Bon, donc, y a quelque chose là qui se passe. Alors, comme la poste, par exemple, une opportunité de revenir justement dans les mondes numériques. Dans lequel ils ont toujours été totalement absents. Bon. Et puis je termine, cette histoire de désir, c'est aussi une toute petite illustration ce qu'on disait sur le marché de l'emploi. Vous voyez bien cette triangulation dans le marché de l'emploi entre l'emploi statutaire, donc patrimonial, c'est la fonction qui compte plus que la personne, hein, etc. Et puis la question de l'activité. Exactement ce que va raconter Yann sur la formation de la compétence dans l'intervention du spectacle. Vous voyez, il faut qu'il y ait beaucoup d'activités et une diversité d'activités pour pouvoir devenir quoi ?
Devenir employable, quoi.
Et l'employabilité, c'est un peu le problème,
justement, l'interactivité, si vous voulez, dans le monde du travail, quoi.
Sachant que il y a une dissociation de plus en plus forte entre les trois choses.
Hein. C'est accumuler le capital personnel qui est constitué, qui est accumulé pour plein de choses et de réseaux, de le récupérer, d'en récupérer au moins une partie.
Bon, vous voyez, ça c'était une pub il y a 2 ans, hein, pour Adecco, hein, qui est le leader mondial de l'intérim, qui est assez violente comme pub, moi j'avais trouvé, c'était assez violent, quoi. C'était, vous voyez,
ils vous mettent un quidam, et puis ce quidam, ils le mettent au même niveau que Gandhi et Coluche, hein, c'est-à-dire en fait, ce qu'ils disent, quoi, c'est le marché de l'emploi est devenu un marché d'exception, et donc un marché de masse. Hein, si vous n'avez pas le caractère d'exceptionnalité d'un Gandhi ou d'un Coluche, vous n'avez pas accès au marché de l'emploi.
Vous serez noyé.
C'est assez violent quand même. Hein.
Et puis, ils vont même encore plus loin. Vous voyez ce qu'ils racontent, c'est qu'ils disent.
Alors, donc, bricoleur, karatéka, chef comptable.
Qu'est-ce que c'est ça, karatéka, bricoleur et tout? C'est les activités du type.
C'est ses activités. Mais c'est maintenant avec son emploi. Mais pour avoir son emploi, le type de plus en plus, il va mettre en valeur le fait qu'il est bricoleur karatéka.
Donc, vous voyez, c'est ça le truc. Bon, et le problème de l'employabilité, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose, je trouve assez violent dans cette pub, mais peut-être que vous ne trouvez pas. Moi, j'ai trouvé très violent, parce que ça dit vraiment le.
Très intrusif. Pour recruter des cerveaux, on a vraiment envie de pénétrer dedans. L'employeur a vraiment envie de pénétrer dedans. Ça peut être l'épreuve du soi élastique, ça peut être quelles sont la nature de vos relations sexuelles avec vos partenaires, enfin des trucs invraisemblables. Et qui maintenant sont posés couramment par des employeurs qui estiment que, et ils réagissent d'autant plus qu'il y a cette espèce de rupture, si vous voulez, du contrat à long terme. C'est-à-dire que plus le contrat se spotise, c'est-à-dire devient un marché spot, court, plus l'employeur il a des problèmes d'incertitude sur la chose. Donc il installe une relation incertaine et pour s'assurer face à la relation incertaine, il fait appel de plus en plus à des cabinets qui vont au fond plus recruter le service d'une personne dans un temps donné, mais recruter la personne, lui c'est votre personnalité qui nous intéresse, c'est le blabla, et donc du coup la personnalité d'un cerveau c'est évidemment pas le fait qu'il est chef comptable, tout le monde s'en fout, on va dire à un chef comptable on s'en fout, on en a autant qu'on en veut, et puis on va dire à quelqu'un vous avez une langue, on se fiche de la langue quelle est la deuxième langue, vous avez deux langues on vous dit quelle est la troisième, etc., etc. Donc les gens vivent ça comme une comme un fait qu'ils sont progressivement littéralement flanqués à poil à chaque entretien d'embauche.
C'est tout à fait paradoxal puisque effectivement l'embauche est précaire justement.
Non, parce que quelqu'un vous dira en finance que du coup la possibilité de se gourer, si vous voulez, le contrat étant à court terme, l'individu peut le rompre à tout moment. Et donc l'entreprise, elle a ce problème de la rupture du contrat unilatéral par l'employé. Elle aimerait bien empêcher, mais là on tomberait dans le servage.
Alors vous avez raison, l'emploi est précaire, mais
risque est très fort.
Vous avez raison, l'emploi est précaire, mais ce que font les gens, c'est qu'ils font des calculs d'employabilité. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des gens qui se fichent pas mal de la fonction qu'ils occupent, d'être en CDI, en CDD, en freelance, en consultant, en tout, ils s'en fichent. Parce qu'ils savent, en quelque sorte, qu'ils ont une forte employabilité, et que même en diversifiant les types de statuts qu'ils occupent, ils continuent d'augmenter leur capital d'employabilité. Donc en fait, ces gens-là, ils surfent sur la précarité, si vous voulez, et ils s'en fichent, en fait. Hein. Et puis, inversement, vous avez des gens qui subissent très fortement la question d'employabilité, et qui, eux, vivent effectivement la précarité comme une chose vraiment substantielle et consubstantielle à eux.
Vous retrouvez exactement ce qu'on avait dit tout à l'heure pour les firmes, entre ceux qui sont coincés dans une comparabilité infinie, un benchmarking à tous les niveaux, à tous les étages, et ceux qui se rendent incomparables, au sens qu'ils se construisent une singularité qui défie la norme d'appréciation.
Le concept
qui se présente comme un tout à prendre ou à laisser.
Le concept clé là-dessus, mais on ne va pas soulever, c'est le concept de substituabilité. Hein, soit vous avez, alors c'est le gars énormément clé là-dessus, toute l'histoire de ce concept, en fait, un peu, parce que l'esclavage, le salariat, le post-salariat, bon,
dans l'économie industrielle, donc, nous avons un monde de forte substituabilité de l'emploi. Hein, c'est la machine, c'est pas tellement la personne qui utilise la machine.
Alors que dans le monde cognitif, dans le capitalisme cognitif, on tend de plus en plus à une insubstituabilité des gens. Vous les savez bien, hein, j'imagine d'ailleurs, vous voyez dans la vie concrète. Quand vous êtes dans une équipe, quand quelqu'un quitte l'équipe, c'est pas quelqu'un, c'est irremplaçable. Vous allez le remplacer, mais même plus, c'est irremplaçable, etc. Hein, c'est ça. Bon, alors je termine juste là-dessus. Puisque on déborde et tout.
Il y a une lutte quand même, je voudrais quand même mettre des mots dessus, il y a quand même une lutte très forte entre ces trois capitalismes. En gros, en haut, vous avez le capitalisme qu'on pourrait appeler patrimonial, vous avez la réaction industrialiste qui est très forte en ce moment, par exemple,
mais qui peut défendre, hein, on peut comprendre aussi ce qu'il raconte. Et puis, vous avez le capitalisme. Moi, alors que si Yann me permet de dire, qu'il appelle lui le capitalisme cognitif, qui serait plutôt celui-là, si vous voulez.
Et puis, vous avez un troisième capitalisme,
moi j'appelle ça le design capitalisme. Hein, le design capitalisme.
Vous continuez après, je vais faire un commentaire.
Bon. Qui est une espèce de troisième truc qui s'intéresse davantage à ça. Hein. Et puis, hein, les trois sont en interaction, quoi.
Ouais. Alors, bon, donc là, je vais te faire une réponse très égalienne. C'est trois moments d'une même chose.
Et je suis d'accord aussi.
Mais... C'est trois moments d'une même chose, parce que ce qui est important dans l'histoire, c'est que vous avez de faire, c'est le circuit, c'est le sens du circuit.
Oui.
Hein, ça tourne le sens des aiguilles d'une montre, ou ça tourne un sens inverse des aiguilles d'une montre, selon d'ailleurs peut-être des configurations qu'on peut avoir avec les hautes et basses pressions.
Oui.
Pour reprendre la météorologie. C'est clair que le capitalisme cognitif a besoin que vous preniez Google, ou que vous preniez Facebook, ou que vous preniez Second Life, ou que vous preniez, j'allais dire, des industries high-tech qui reposent sur les brevets, IBM, qui a un portefeuille de 12 000 brevets. Il a besoin d'une activité des biens communs. Il a besoin de l'intelligence collective. Il a besoin des cerveaux de cette activité raisonnable et réseautale. Bon, général. Mais son problème, comme on l'a vu, comme je l'ai dit hier et comme Antoine l'a expliqué, c'est qu'en réalité, ces biens communs ont une fâcheuse, posent un certain nombre de problèmes de réappropriation privative de modèles économiques. Et je dirais que jamais la contradiction est aussi forte que dans la production de ces biens cognitifs, notamment ça prend la forme de la recherche fondamentale, de la recherche, la découverte versus la brevetisation ou sa transformation en économie appliquée industrielle. Par exemple, si vous voulez, vous avez un mouvement de pression qui a commencé dans les années 80, qui est peut-être en train de s'achever maintenant, qui a été porté par les États-Unis face à la concurrence japonaise, c'était de considérer que les Japonais et l'Allemagne, en général le restant du monde, profitaient du parapluie militaire américain pour développer des activités d'exploitation de recherche appliquée et laissant aux États-Unis l'investissement dans la recherche fondamentale, ramasser les brevets. Donc les États-Unis, à partir de 80, ont inversé la chose, et ils l'ont fait à cause du numérique, à cause de l'intégration croissante de la recherche fondamentale et de ses applications, en, au fond, tentant de mettre des brevets sur des choses que nous appellerions encore du langage. Par exemple, les logiciels. Les logiciels ont été annexés au droit d'auteur, comme vous le savez, puis annexés au brevet. Vous avez les deux qui fonctionnent aujourd'hui aux États-Unis. Vous savez que l'Europe et les États-Unis ont fait une terrible pression sur le Japon pour obliger le Japon à se rallier à ça. L'Europe a tenu bon parce qu'il y avait déjà une culture du logiciel libre. Elle a dit on ne peut pas breveter des algorithmes. Des algorithmes peuvent rester secrets, c'est ce que fait Google, c'est ce que font un certain nombre d'entreprises quand elles ont découvert des choses de valorisation intellectuelle. Par exemple, nous, on a une spin-off de l'UTC qui s'appelle IntelliTech, qui a fait des tas de choses, notamment qui a manipulé plein d'informaticiens dans le monde en créant des programmes de parquage automatique des véhicules, d'évaluation, enfin, X-Practice, X-Part, etc. Tout ça, c'est des algorithmes qui sont protégés par le secret, comme Google. Ça, c'est une méthode. Le secret, c'est possible. En revanche, breveter, ça pose des problèmes considérables et droit d'auteur aussi. Donc, le problème, c'est que ces biens communs qui apparaissent, parce qu'ils apparaissent là aussi, Facebook. Et ils apparaissent même là. Ils ont toujours apparu dans la production littéraire et artistique, comme vous le savez, qui tombe dans le domaine public au bout d'un certain temps, hein, selon les termes du droit de la propriété. Et là, encore plus, à travers les trucs Creative Commons et Open Source. Donc, le problème, c'est comment traduire ces biens communs qui interviennent de plus en plus fréquemment dans la chaîne de la valeur et qui, normalement, créent une ouverture, comment les réencoder dans un système compatible avec un business model ou un modèle qui tienne debout si on ne peut pas faire appel simplement à la subvention publique. Et là, effectivement, on s'aperçoit que c'est peut-être en ça que Antoine a raison de souligner ce moment du design capitaliste qui est une tentative de faire tourner la machine, c'est-à-dire d'utiliser le potentiel de ça, d'utiliser le potentiel de singularisation des gens pour reconduire un modèle. N'oubliez pas que Facebook a été Microsoft a tenté de mettre la main dessus et on a offert 15 milliards de dollars. Et ça stupéfait quand ça a été annoncé, tous les gens se sont écarquillés les yeux et ont dit mais comment un truc pareil peut-il valoir 15 milliards de dollars? C'était l'époque avant la crise, hein, parce que ce qu'Antoine vous a pas dit, c'est que 2007, Google n'est encore qu'à 70 milliards de capitalisation boursière. 2010, Google est à 180. Neuf même, enfin ça monte de jour en jour. Donc, dans la crise, les valeurs de l'immatériel ont encore monté.
Oui.
Elles ont encore monté, elles ont
c'est
encore
très, c'est très important de le dire.
Et ça, c'est contrairement aux gens et aux mouvements purement idéologiques de retour à l'industrialisation, la connerie qu'on a entendue en France sur le fait que la France devait rester une grande puissance industrielle, comme par hasard, sur des choses, c'est des projets qui sont complètement obsolètes. C'est pas, on pourrait dire, la France va conquérir des positions de pointe sur les nanotechnologies, sur les industries du spectacle, sur la communication, l'interactivité, etc. Et elle va laisser la fabrication des aciers spéciaux, et elle s'est déjà fait, à Mittal, hein, qui a bouffé Arcelor, en 33 mouvements, etc. Eh bien non, puisque finalement, on vous dit, mais non, ce qu'il faut, c'est que les continentales puissent être là et qu'on puisse continuer à avoir de l'emploi industriel. Alors qu'en France, il y a 1000 emplois par jour qui disparaissent en ce moment, vous vous doutez bien que ce fragment industriel, c'est un tout petit morceau qui fait beaucoup parler de bruit. De lui, c'est une sorte de revanche des années 70. C'est comme si les trucs qui n'ont pas abouti dans les années 70 aboutissaient 30 ans après. Mais en revanche, ce dont on ne parle pas, c'est les milliers d'emplois qui valsent en ce moment dans des secteurs producteurs de nouvelles technologies, de publicité, justement, la creative class a été très frappée par l'espèce d'arrêt qu'il y a eu à partir de 2008, janvier 2008, tout s'est arrêté. Or, comme elle compte, elle est l'élément sous-traitant de tout l'appareil productif, notamment des très grands groupes comme des start-up, il y a eu une espèce de tassement dans la croissance. C'est pas parce qu'on a vendu moins de pneus continentales qu'on a fait moins 4% du PIB. C'est évidemment pas ça. Et ça, c'est complètement planqué. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de ça. Donc, vous voyez bien qu'au fond, il y a un mouvement là constant qui peut tourner dans différents sens. Et ce qui est bien, moi je pense que c'est le mouvement d'ensemble qui définit le capitalisme cognitif, qui est une compréhension des transformations productives et interactives générales, et qui tente de réencoder ça d'une façon propriétaire, d'un moment à un autre, dans des modèles économiques. Et donc, les différentes modalités sont autant de modalités. Et notamment, Wikipédia est une possibilité aussi, plus compliquée, qui fonctionnera probablement avec de la subvention. Il y aura des difficultés à fonctionner hors subvention.
Voilà. Moi, je trouve que c'est une assez belle conclusion du propos qu'on voulait avoir, même si il y avait des choses d'autres choses.
Mais
on peut revenir, il n'y a aucun problème.
Oui, je voudrais que vous soyez un peu plus détaillé sur la notion de légitimité. D'où elle tire sa racine, par exemple, j'ai évoqué que vous avez travaillé chez Louis Vuitton ou des grandes marques comme ça. Finalement, c'est parce qu'on a un peu l'impression de construire une légitimité qui devient extrêmement intangible également. La légitimité d'un Hermès, c'est le fait que l'arrière-grand-père faisait des selles à la main. Et ça me paraît, ça marche encore, mais à un moment donné, je pense que la légitimité doit se matérialiser dans la qualité des produits qu'ils offrent.
C'est
toujours le cas, ils offrent de
l'Hermès.
C'est le cas d'Hermès. Oui. Et donc, ce point-là, juste où peut-on aller dans la virtualisation de la
C'est... Bon, d'abord, je suis assez d'accord avec vous sur ces marques-là. Et puis, comment répondre à cette question ? Ah, c'est une grande question.
Je peux vous donner la signe de ma question, parce que le conseil d'administration d'une marque de pierre qui est la propriété d'une communauté farmiste.
Ah oui. D'accord.
Et donc, la légitimité, on se la pose de manière profonde, et surtout dans les transports à pied, puisqu'il y a plus d'appels de communauté.
Il y aura plus d'appels de communauté.
Ah, oui, c'est vraiment une chose de l'enfer.
Non, vous savez, le 11e siècle, il y a comme des communautés, des ordres monastiques ont constitué.
Et donc, le point de la légitimité, pour l'instant, j'ai l'impression que la légitimité, elle est vraiment très très forte, parce qu'il y a plus de près. Et on voit très bien avec nos confrères concurrents qui ont des noms d'abbayes, mais qui n'existent quasi plus, qui sont sous-traités, la
marque.
Alors, bon, c'est une très belle question parce que c'est un truc que moi je ne connais pas dans les détails, mais je m'adresse dans ce secteur-là, c'est bien, moi je suis vraiment l'esprit de Dieu. Je prends comme exemple les histoires des vins, hein, les appellations des vins, c'est proche de votre problème de bière, là. Et puis je pense que vous avez vu le film qu'il y avait eu il y a quelques années sur les vins californiens.
Mondino.
Bon, et là, et qu'est-ce qu'a été la stratégie des vins à la fois californiens, australiens, sud-américains, principalement d'ailleurs les vins français. Bon, vous voyez bien que la question est assez. En fait, la question est très profonde parce que c'était une question alors de marketing stratégique, si on dit une chose, qui a consisté à quoi ? Bah, d'un côté, vous avez les vins français qui étaient rivés à la question des appellations d'origine contrôlée et à la question des noms de domaine. Ce qui crée quoi ? Ce qui crée une économie d'amateurs extrêmement exigeante. Hein ? C'est-à-dire pour s'y retrouver, si vous voulez, dans les noms de châteaux, les vins français, et en rajoutant en plus la connaissance des années et des variations de la qualité du produit selon les années, en fait, il faut devenir pratiquement un vendeur professionnel. C'est à la fois un hobby, une activité, au sens qu'on en parlait tout à l'heure, et en même temps, ce qui requiert beaucoup d'expérience. Et puis là-dedans débarque très rapidement, hein, c'est très vite, à la fois donc, le rebranding des vins californiens, qui existe depuis très longtemps. C'est les cépages californiens qui d'ailleurs ont reboisé les vignobles français à l'endroit du phylloxéra. Donc, en un sens, les cépages français se libèrent beaucoup en Californie. Bon, c'est ça qui ferme la parenthèse. Face à ça, les vins français ont des gigantesques problèmes. Ils se débarquent encore dedans. Hein, puisque la stratégie de tous les vins du Nouveau Monde, comme on dit très vite, ça a été de capitaliser sur les appellations de cépage. Bon. Et non pas sur les appellations de domaine. Mais oui, mais ça change tout. Hein, parce que, évidemment, ça change complètement la question de la légitimité. Mais pourquoi je vous dis ça ? Bah, parce que c'est un peu le problème, justement. C'est pas pour repasser des slides exprès, mais c'est un peu le problème de ce qu'on mentionnait hier, c'est-à-dire le problème de la captation des externalités. Et vous voyez ce qui se passe dans le monde des marques. Ça se passe un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire, en général, la question de la légitimité, on la pose comme ça. C'est-à-dire, c'est beaucoup la question de la qualité extérieure du produit, etc. Et puis, on capte aussi un peu d'implicite dans la marque. Donc, beaucoup d'implicite. Ah, et puis, il y a quelque chose qui se passe avec la globalisation. Alors, moi, j'ai vécu ça dans le luxe, notamment, de façon concrète. C'est qu'en gros, vous êtes passé de ces attributs-là. Alors, ça, c'est très vrai pour le parent, ce que vous disiez de Louis Vuitton. C'est-à-dire le problème de la qualité du produit, le problème du nombre d'heures travaillées incorporées dans le produit et tout. Hein, en fait, une économie de l'artisanat, de l'hyper-artisanat, quoi, qui sublime les valeurs de l'artisanat. De légitimité, tout d'un coup, parce que ça s'est fait très vite, c'est inversé complètement. Et tout d'un coup, c'est devenu, vous voyez, je mets Art Basel Miami. Miami Beach. Hein, parce que vous avez vu comment les marques, les Global Brands qui sont situées après les années de la pandémie, elles se sont mises à capter tout ce qui se passait dans l'art contemporain, notamment. C'est un monde très éloigné de leur fonds de commerce. Et puis elles l'incorporaient dans les produits. Mais du coup, c'est avec à la fois, si vous voulez, c'est une espèce de captation justement de la creative class, quoi, enfin dans ses expressions les plus fortes, pour relégitimer la question notamment du luxe. Hein? Moi, j'avais dû dire, c'est un peu impur, que du coup, il y a un modèle économique derrière, parce qu'ils sont passés du modèle de la justification du prix au modèle de la cote. Quand il y a une grande différence entre une cote. Évidemment, une cote, c'est beaucoup plus de conventions. Donc, vous pouvez faire beaucoup plus de marge. Hein. Bon. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je vous répondrai sur la question de la légitimité.
Il y a ce phénomène d'augmentation,
si vous voulez, de la surface, de ce que les marques veulent pouvoir s'approprier.
Il faudrait que tu continues, parce qu'en réalité... je ne sais pas si tu as encore un autre slide, pas sur la santé. Voilà.
Oui, là, c'est frappant dans les liens.
Beaucoup de gens posent la question, des marques comme vous la posez d'un coup. Je crois que finalement, c'est assez indifférent. C'est-à-dire, on a vu des cas où la marque se détachait de sa base historique réelle sans problème, et des cas où, au contraire, ça lui était mortel. J'ai tendance à penser que la clé du problème n'est pas là-haut, au-dessus, elle est en dessous. Si des bières se cassent la gueule ou pas, ça a quelque chose à voir avec ce à quoi elles s'identifient. Les bières se sont identifiées pendant très longtemps à leur pointe d'amertume, apaiser la soif, la fraîcheur, la convivialité. D'accord ? Et elles ont écarté totalement les questions de santé. Alors, je ne sais pas si dans la guerre, bière, vin, il y a eu à un moment donné le fait qu'on a pu dire que la bière était moins en teneur d'alcool que le vin, ça n'en sait rien. Je ne suis pas spécialiste de la question. Mais en revanche, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'alimentaire, il y a des ravages qui s'opèrent sur le fait que les entreprises qui arrivent dans l'alimentaire à réussir sont celles qui ont, au fond, capté une externalité très profonde qui est la santé. La construction de la santé par les gens et le fait que, je parle pour des produits de grande consommation, je ne suis pas en train de parler de produits de luxe. Et il y a des marques qui ont réussi effectivement à capter de façon indue ou pas indue, c'est simplement un phénomène d'opinion qu'on constate.
Il suffit d'aller yaourt, devant un rayon de supermarché,
capté par Danone, machin, etc., et prolongé par l'opération avec Yunus au Bangladesh. Ça, c'est des trucs très importants parce que c'est, j'allais dire, c'est macroscopique par rapport à ce qui se passait dans la sphère émergée. Alors, celles qui ont très bien joué, c'est celles qui ont joué à la fois la sphère d'en haut, mais qui ont incorporé la sphère immergée de l'iceberg et qui ont réussi à la faire apparaître. Parce que du coup, les consommateurs ont eu un effet de révélation. C'est-à-dire, ils ont cru que ils découvraient le fil à couper le beurre, et ils n'ont pas questionné d'ailleurs l'association. Activa et Danone, il a fallu qu'ils se fassent rappeler, qu'ils se fassent interdire l'utilisation du label vert, comme plein de produits agricoles, pour qu'on se rende compte qu'effectivement la captation était plus que légèrement indue. Alors, je ne sais pas si dans ces histoires, si vous voulez, et il se passe la même chose actuellement sur le détachement des marques. Actuellement, par exemple, les vignobles de Champagne ont profité du réchauffement climatique pour mener des opérations d'achat de terrains vinicoles, il me semble, dans le nord de la France et en Belgique, et il reluque un bout de la vallée du Rhin, parce qu'il prévoit qu'effectivement, avec le réchauffement climatique, il y a un certain nombre de conditions qui seront plus remplies pour la cueillette des vins de Champagne, si vous voulez, la cueillette du vignoble de Champagne. Et ils ont profité de cette affaire, qui est le réchauffement climatique, la légitimité de réagir sur les cultures, pour dépasser le problème, qui est un problème récurrent du Champagne, qui est l'exiguïté du territoire, du terroir, par rapport à l'appellation contrôlée. comme pour l'histoire de Roquefort, le lait, etc. Il y a beaucoup de marques qui décomposent. Plus elles renforcent la marque patrimonialement comme marque, plus ça leur donne de possibilités d'action, j'allais dire, dans la composition du produit et dans le fait qu'elles font appel à des vignobles ou à du lait pour le Roquefort, voilà, qui n'est plus du terroir, du terroir. C'est-à-dire que finalement, c'est seulement la marque d'assemblage finale qui est ça. Alors, par exemple, c'est vrai que les Bordeaux, ils ont un problème majeur parce que les Bordeaux sont par domaine. Ça n'est pas le cas du Bourgogne, parce que le Bourgogne est un vin de négociant, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, c'est pour ça qu'il se conserve moins bien. Le Bourgogne est fait par le négociant qui mélange des cépages, des crus, des là et des années. Ce qui est une hérésie totale pour le Bordeaux, qu'on ne peut pas faire. Mais donc, j'allais dire que toutes ces combinaisons, il y a une multiplicité, et je ne le poserai pas en termes, la légitimité ne provient pas exclusivement d'un apanage, d'un fief, parce que souvent, ça, c'est une réinvention de la tradition. La territorialisation de la marque est une pure invention de l'âge industriel, par exemple de Napoléon. C'est sous Napoléon III que le camembert, qui est en fait un fromage de Lorraine, est amené en Normandie, transformé en produit étendard de la Normandie. Si vous dites à des Normands, le camembert, il ne sort pas de la Bretagne, de la Normandie et de la Lorraine, c'est la Révolution, etc. Or, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que l'historien Osborne a appelé l'invention de la tradition. Une tradition dont les traditions territoriales et gastronomiques sont des constructions inventées très largement. Très, très largement. Donc, je pense que par rapport à cette histoire de l'Est, ça vous donne du goût, enfin de l'Est ou d'autre chose, de bière, j'en sais rien. Je ne suis pas un connaisseur de bière, je vais vous dire, de toute façon, je ne peux plus en boire, donc je laisse tomber. Mais c'est pas une. Il y a plus de jeu qu'on pense, et la légitimité, elle ne provient pas de l'ancrage territorial, à mon sens. C'est un élément, mais c'est un élément seulement qui joue moins maintenant dans la mesure où elles arrivent à capter d'autres externalités. Je ne sais pas si ça répond. Je ne sais pas si c'est un sujet.
Mais une rigidité entre laquelle la franchise a été la sauvegarder, ce qui dépend aussi d'un point de vue local, partout du point de vue local, et de la force qui est représentée aujourd'hui par rapport au grand groupe international. Aujourd'hui, on entend parler dans ces régions-là, en tous les cas, qu'on boit ce produit particulier parce qu'on ne veut plus participer à la globalisation. Et donc, là, ça, la légitimité est en train de la prendre à partir de sa base aussi et de sa mission.
Le sujet, c'est que il y a une valeur énorme à cette légitimité. Vous essayez de mettre une valeur et qui est finalement se matérialise par un surprix au consommateur.
Ça mène à des choses qu'on a évoquées hier et qu'il faut peut-être évoquer aujourd'hui à nouveau, c'est les externalités, effectivement, dont on a un peu parlé aujourd'hui, leur rôle tellement important dans la valeur, mais tellement important, parfois on ne sait pas les valoriser.
Oui, c'est des économies. Alors, dans des économies complexes, vous avez de l'interaction. Vous avez que la somme des parties, enfin que le tout n'est pas réductible à la somme des parties et des valeurs ajoutées de chacune des parties. Donc c'est ce qu'Antoine a développé sur le milieu. Mais ça veut dire que vous avez des externalités simples, qui est que si vous avez une transaction qui a lieu constamment entre deux agents, qui elle est soldée monétairement, etc., il y a un marché, hein, vous pouvez avoir des effets non désirés ou désirés d'ailleurs, ou dont les gens se fichent. Les agents s'en fichent et qui créent des dommages ou qui créent des aménités qui ne sont pas prises qui ne sont pas comptabilisées monétairement. Et donc ce phénomène-là est de plus en plus dominant au fur et à mesure qu'on se dirige vers une économie hyper complexe dans laquelle j'allais dire tout ressemble à une usine à gaz. Vous appuyez dans un endroit, vous pensez que vous attendez des effets à un autre endroit de sortie et en fait il y en a 4 ou 5 qui se passent et que vous n'attendiez pas. Bon. Alors, à partir du moment où vous pouvez construire si vous voulez, il y a des problèmes classiques qui ont été posés par l'économiste Ronald Coase, qui a en deux articles de 40 pages et non formalisés gagné le prix Nobel, c'est le seul exemple enfin, c'est une rentabilité fabuleuse de l'article, pour le prix Nobel, c'est un vieux monsieur qui doit maintenant avoir 95 ans,
ouais. Ça.
Mais qui a écrit La nature de la firme en 1937 et qui a écrit Les social costs, les coûts sociaux en 1959, et qui s'occupait justement du problème du modèle économique, de choses qui sont financées, de biens publics ou de biens communs comme les radios. Comment, quel est le modèle de fonctionnement d'une radio, ou comment régler des conflits de copropriétaires, ou comment régler des conflits de l'ombre que fait une tour dans une ville par rapport à ce qui existait avant quand ce n'était pas construit, etc. Et donc, ce que dit Coase, c'est que vous pouvez considérer que l'intervention publique va déterminer des liabilities, c'est-à-dire des dommages, va établir ou pas s'il y a des dommages lésés, etc. Il va y avoir une réparation ou pas, il va y avoir une internalisation ou pas par le juge, au sens où, par exemple, on prend l'exemple très courant, enfin très important aux États-Unis, des incendies de plaine déclenchés par le transport de bétail dans des locomotives à charbon entre la côte du Midwest et les États-Unis, enfin Chicago, qui régulièrement brûlait des centaines de milliers d'hectares de blé, de prairies, etc. Les agriculteurs se sont plaints, et donc il a fallu à ce moment-là, les deux agents qui avaient les éleveurs et la compagnie de chemin de fer ou les bouchers qui commandaient pour les abattages le transport de bétail se sont retrouvés au banc des accusés, et le juge avait le choix entre plusieurs façons, déclarer il n'y a pas lieu de juger, il n'y a pas de dommages, etc., c'est les orages de chaleur, dire que c'est la responsabilité de la compagnie de chemin de fer de créer les lisières et de nettoyer le bord de voie pour pas que ça prenne feu, ou c'est la compagnie de chemin de fer qui doit changer ses locomotives de façon à ce qu'elles n'expédient pas des escarpines de charbon, ou c'est que, systématiquement les deux qui vont payer les dommages chaque fois qu'il y a des dommages. Bon. Et ces éléments-là, on voit très bien que c'est la vision que tous les gens ont. Il y a des externalités de pollution dont on n'a pas tenu compte, qu'il faut calculer maintenant, et il faut les répartir. Soit c'est la collectivité globale qui les paye, soit c'est les éleveurs de porcs bretons qui vont payer les infiltrations de lisier qui nitratisent la couche, la nappe phréatique. Donc on va exiger qu'ils aient, c'était la loi Bolloré-Cuillère qui avait lancé Dominique Voynet quand il était gouvernement, qui exige que l'eau que vous utilisez, vous la rendez dans la rivière aussi propre que vous l'avez utilisée, c'est-à-dire que vous avez une mini-centrale d'épuration. C'est-à-dire que c'est le principe pollueur-payeur. Bon, ça, vous internalisez, tout le monde comprend à peu près ce que ça veut dire. Mais il y a des externalités beaucoup plus complexes que vous n'arrivez pas à internaliser. Par exemple, j'ai pris l'exemple de la pollinisation hier, vous ne pouvez pas internaliser ou très peu ou pas complètement le travail fait par les abeilles, qui est beaucoup plus important que ce qu'elles rapportent en miel et en cire, mais qui est tout simplement le travail de pollinisation des cultures agro-industrielles, des cultures artisanales et enfin de la nature sauvage. Il y a un rapport à peu près de 1 à 351 en termes de valeur économique. Donc, si vous voulez, la pollinisation n'est pas techniquement faisable par nous. Nous ne pouvons pas polliniser, nous ne savons pas chimiquement nous substituer aux abeilles pour polliniser. Résultat, on peut dire que la pollinisation est hors de prix ou sans prix, c'est-à-dire elle est sans prix au sens où elle a une valeur voisine de l'infini, donc on ne peut pas mettre un prix dessus. Et on se met d'accord pour ne pas mettre un prix dessus. Comme on se met d'accord, au fond, dans notre société, pour ne pas mettre un prix sur le travail affectif des parents dans l'élevage des enfants, parce que si on mettait un prix dessus, je crois qu'il faudrait effectivement donner 2 à 3 fois un salaire moyen au travail que font les femmes d'élevage des enfants pour éviter que les enfants deviennent des monstres trucides de 150 personnes, deviennent des psychopathes, etc. Or, c'est fondamental. C'est ça qui déclenche la sociabilité cruciale. Donc, à ce moment-là, pour ces externalités hors prix ou sans prix, comment on se débrouille? Comment on se débrouille? Alors, on les intègre d'une façon, on peut les intégrer dans la société d'une façon symbolique. Par exemple, la société a décidé que la valeur de la vie n'était pas brevetable. On ne peut pas breveter le vivant. C'est une des bases de la théorie des droits de propriété. Des droits de propriété, même sous le régime industriel. On a des certificats d'obtention végétale, on n'a pas les brevetages du vivant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est pas qu'on n'a pas envie de breveter le maïs, machin, etc. C'est tout simplement parce que le jour où on brevette le vivant, on arrive directement au bipède à deux pieds sans brume que nous sommes, donc on arrive au clonage, donc on arrive au raélien. Donc ça pose un sérieux problème de dire que le vivant est brevetable. Ça pose un sérieux problème éthique de dire qu'on peut travailler sur les cellules souches et en faire ce qu'on veut.
On peut les prélever comme on veut, etc. Donc il y a tout, c'est la bioéthique, il y a tout un débat pour tracer les limites de ce qui est marchandisable, de ce qui n'est pas marchandisable. Et toute société, en fait, détermine ce qui est marchandisable, de ce qui n'est pas marchandisable. Et par exemple, la société salariale industrielle, le capitalisme industriel, a décrété, à la différence de la précédente, que désormais, on ne pourrait pas obliger les gens à accomplir une tâche de travail dépendant en esclavagisant leur corps et leur personne juridique. C'est l'interdiction du marchandage qui est une des bases du salariat. On a décidé, comme ça, un beau jour, on a décidé on ne peut plus acheter, vendre des personnes. Comme ça. Donc la société a décidé ça. Et sur le vivant, il y a une énorme discussion pour savoir si on peut ou pas, dans quelle mesure, breveter le vivant. Est-ce qu'on peut manipuler des plans modifiés, etc. Pour des raisons techniques, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on ne peut pas le faire, est-ce qu'il y a des problèmes éthiques qui se posent, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. Bon, alors, ces frontières, ces limites, si vous voulez, montrent que les externalités ne sont pas toutes du même niveau. C'est-à-dire que vous avez des externalités, qu'elles soient positives ou négatives, vous les intégrez. Vous allez dire, par exemple, que quand une entreprise, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour les entreprises de télévision qui visiblement ont tiré la couverture un peu loin, c'est-à-dire qui ont réussi à faire travailler gratis tout le monde, des tas de gens qu'elles ont exploités honteusement. Alors à un moment donné, les pouvoirs publics, le droit dit ben non, on est désolé, on requalifie votre prestation en contrat de travail et vous avez un employeur dont vous avez des droits et l'employeur a des devoirs par rapport à vous. En revanche, est-ce que ça a un sens de dire que les 16 millions de cliqueurs par seconde qui travaillent pour Google indirectement vont être considérés comme des salariés et Google va devoir les payer? Non. Non. C'est-à-dire que, est-ce que ça a un sens que le réseau, l'activité raisonnable des gens soit utilisée par le capitalisme cognitif, que ce soit dans Wikipédia qui ne fait pas de produits marchands, mais de Facebook qui en fait et de Google qui en fait, dans quelle mesure les gens vont tenter de se réapproprier d'une partie de ça, hein, ça existe, c'est-à-dire qu'il y a des rémunérations de contribution qui ne sont pas des rémunérations salariées. Tout ça, c'est des questions importantes et j'ai l'impression qu'il ne faut pas écraser toutes les externalités les unes sur les autres et il faut arriver à les tamiser.
À propos de l'externalité, on a beaucoup parlé de comment prendre en compte les externalités dans le monde financier, etc. Mais j'ai plutôt une question sur comment agir sur les externalités et finalement qui est le leader sur les externalités. Parce qu'on parlait des marques, je comprends que les marques essayent de capter les forces intellectuelles, mais est-ce que finalement on n'est pas dans un monde où ce ne sont plus les marques qui réellement se forment, mais c'est plutôt les membres de ces consommateurs ou de ces utilisateurs qui d'une manière peut-être organique et pas forcément rationnelle va se cristalliser autour de certaines marques sans que finalement les directeurs des marques aient tellement d'influence. Je dirais que leur rôle plutôt c'est de se rendre, c'est plutôt un rôle de réponse. Quand ils constatent que leur marque attire ou en tout cas est dans une situation où les externalités sont importantes, et bien à ce moment-là comprennent ce qui se passe pour pouvoir conserver cet élan. Mais est-ce que, quel est de nos jours l'ampleur, quel est le réel pouvoir des responsables des marques dans ce nouveau système?
Alors, c'est un peu ce qu'on essaie de dire, c'est un peu ce qui a été schématisé ici, c'est-à-dire à la fois tout ce que vient de dire Yann sur les... les différents niveaux d'externalité, le fait qu'il n'y a pas d'internalisation possible de toutes les externalités, etc. Et puis en même temps, ce mouvement comme ça, très profond, là, de mise au travail, en quelque sorte, de ces externalités, si je schématise. Hein. Et puis, c'est un peu ce qu'on évoquait très rapidement hier, le rêve, si vous voulez, de tous les directeurs du marketing, aujourd'hui, enfin moi je fais le pari, si on faisait un sondage chez eux, je parle de l'ère des grandes marques, donc celle que vous évoquez, c'est d'apparaître comme le résultat de ça.
Est-ce que c'est un rêve ou si c'est vraiment réalisable?
Non, évidemment que ce n'est pas réalisable, mais elles essayent de mimer ça. Hein, c'est-à-dire, elles essayent de faire comme si elles étaient le résultat de communautés d'utilisateurs pratiquement autogérées, quoi. Comme si elles étaient elles-mêmes le résultat de ça. Hein? Donc, du coup, elles dépensent des budgets considérables, qui d'ailleurs, ça ne... enfin, moi, empiriquement, ce que j'ai vu dans les métiers de la pub, c'est que pour l'instant, ça ne fonctionne pas, ça ne crée pas d'audience. hein, mais elle dépense des budgets considérables pour créer des plateformes justement accueillant la créativité des gens, de formes de discussion, de machin, etc. En fait, c'est des audiences très faibles. Hein. Et il n'y a pas encore, par exemple, d'émergence pour aller au bout de ce que vous dites, mais peut-être ça arrivera, je ne sais pas, de médias de masse, mais avec ces nouveaux médias qui sont les réseaux et la délinéarisation du temps d'attention des gens, etc., qui viennent d'une marque, mais elles investissent tous dedans. Hein? C'est-à-dire que les marques se mettent toutes maintenant à créer leur chaîne de télé, et pas seulement les marques, les associations. Hein? On parlait des optimistes, là, bon, c'est une forme de média, quoi. Immédiatement. C'est immédiatement un média, quoi. Bon. Donc, évidemment, pour aller au bout de ce raisonnement-là, elles essayent de devenir des médias, les marques, et pas seulement des labels marchands d'un point de vue artisanal labellisent la qualité du produit, d'un point de vue industriel labellisent le rapport qualité-prix, etc. Désormais, elles essayent d'aller directement dans la production de contenu. Oui.
Non, mais c'est un processus de légitimation. C'est-à-dire qu'au fond, elles ont compris que ce processus de tagage, d'évaluation collective, intercroisée, interactif, est la source de la chose, si vous voulez, comme en démocratie, le vote démocratique, l'opinion du plus grand nombre sur un sujet à un moment donné, est la source de légitimité. Donc elle cherche à construire quelque chose qui soit un processus de légitimation si elles ne l'ont pas déjà, parce qu'elles peuvent gérer une légitimité existante. Et là, c'est surtout de ne pas faire de conneries.
Pour vous répondre directement, si vous voulez, elle passe de la question de la légitimité à la question de la légitimation.
Voilà. Quels sont les procédés par lesquels on arrive à mimer. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça que la question du mimétisme est tellement importante. On arrive à laisser supposer, par exemple, au consommateur qu'il est producteur, qu'il est transhumeur, qu'il contribue. Donc, on va lui dire, au fond, mais c'est un béaba que les marques vraiment qui s'attachaient au clientèle depuis longtemps avaient compris, c'est-à-dire de valoriser le client au sens que le client est la considération et le sentiment qu'il est littéralement un stakeholder. Hein, c'est comme si, alors que c'est lui qui donne de l'argent, il a l'impression que c'est lui qui participe à la chose. Donc ça, c'est les astuces et c'est d'autant plus possible que l'interactivité numérique, elle, montre que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, du point de vue numérique formel, ce qui se passe bien quand il y a création de réseau, vous apportez quelque chose, non seulement votre contribution personnelle à la chose, mais vous apportez quelque chose au réseau global, vous l'enrichissez, et donc plus une firme aura des clients nombreux et qu'elle sera valorisée, plus sa valeur globale va monter. Donc c'est ça, à mon avis. Alors maintenant, sur l'action, les leviers d'action sur les externalités, c'est clair que vous voyez bien que comme ça se passe aussi à l'extérieur de la firme, que beaucoup de choses, la firme en pointillé, ben, ça veut dire qu'elle est poreuse, c'est-à-dire que ça rentre et que ça sort des deux côtés. Externalisation, internalisation, c'est un double mouvement. Elle dépend fantastiquement de ce qui se passe sur le territoire. C'est-à-dire que sur le territoire, l'intervention publique, le changement, par exemple le déclin, l'épuisement de certaines externalités positives, les territoires par exemple qui ont beaucoup tiré sur la coalescence du RCAIM, c'est-à-dire le fait qu'il y a des solidarités, il y a des groupes, des choses qui existent, qui tiennent à la famille, à l'histoire, à une certaine petite et moyenne industrie qui existait, qui tiennent au mode ancien. Par exemple, les industries se sont bien implantées dans les endroits où il y a une tradition de petite agriculture polyvalente paysanne. Par exemple, d'Oporto au Portugal, pas mal de plaines flamandes, c'est parce qu'il y avait de la petite industrie polyvalente, de l'activité paysanne polyvalente. Là, ça a marché merveilleusement. Quand vous avez de l'élevage agricole, des salariés agricoles, où vous avez des pasteurs, et quand vous avez des industries monomaniaques, ou monomachins, comme ça a été tellement le cas dans le nord de la France, les mines, et là, c'est très clair, quand cette industrie-là se casse la gueule, tout se casse la gueule. Parce qu'il n'y a rien comme tissu, si vous voulez, qui a réagi. Donc ça, ces éléments-là, ce sont des éléments. Et la puissance publique peut intervenir dessus. Qu'est-ce qu'a fait la puissance publique dans le Nord? Une des premières choses qu'elle a faites avec l'effondrement des mines, c'est qu'elle a commencé à s'apercevoir que c'était une des régions les plus sous-développées de France du point de vue des écoles, des universités, etc. C'est-à-dire qu'il a fallu créer des écoles, des universités, tout simplement parce qu'il y a un niveau d'alphabétisation de la population qui était très faible. Autrement dit, l'industrialisation avait abruti, avait affaibli le niveau d'éducation de la population. Ce n'est pas d'ailleurs lié à la performance industrielle. Comme disait le recteur de l'Académie de Séville il y a longtemps, enfin de l'Université de Séville, il disait qu'est-ce que nous produisons nous? Nous produisons des docteurs, nous produisons du capital humain. Ça fait très longtemps que les zones dites sous-développées de la France, de l'Europe, produisent en fait du capital humain, donc produisent des éléments qui ensuite sont valorisés ailleurs que dans l'endroit où ils ont été produits. Donc là, il y a une incidence énorme des politiques publiques sur la production des externalités. Elles peuvent les épuiser, elles peuvent réagir contre les prédateurs, elles peuvent avoir une politique, si vous voulez, qui soit une politique de préservation d'un milieu complexe, de la biodiversité culturelle, j'ai envie de dire, de la bioactivité culturelle, ou de la bioactivité industrielle, ou de la bioactivité tout court, c'est-à-dire de quelque chose qui est vivant, qui est multiple, et qui n'est pas sérialisé, simple et terriblement fragile, par exemple à des conditions d'exposition au marché international, par exemple à une monoproduction, etc. Donc ça, c'est les foncteurs. Il y a des choses qui agissent sur les interdits. C'est pas une chose de la même façon qu'on peut renverser par l'intervention publique des dégradations, des externalités négatives. Par exemple, si vous luttez contre l'érosion en replantant des arbres, c'est clair que vous luttez contre les inondations, contre plein de trucs, et ça dépend des investissements que vous faites dans le sujet. Donc vraiment, c'est des politiques publiques. Alors, on est en train de parler des politiques publiques.
Et qui demande pour le coup un changement de perception de la part du public, enfin, des entreprises et du secteur de l'administration, qu'effectivement, ces externalités ont un rôle fondamental.
Oui.
Alors qu'elles sont justement, par l'idéologie même de production capitaliste qu'on a aujourd'hui, complètement.
C'est-à-dire que le tout marché, vous voyez bien que si vous dites que tout est marché, que tout passe par le marché, et que ce qui n'est pas dans le marché n'existe pas, vous aboutissez à une position typiquement de l'administration kafkaïenne qui va dire c'est pas dans le marché, il ne connaît pas. Bon. Mais réciproquement, vous avez des énormités qui se passent actuellement, je peux vous dire, sur c'est pas dans Google, ça n'existe pas. Ce qui est aussi une autre forme de crétinisme achevé. Bon. Mais c'est clair que là, ce renversement de pondération, c'est-à-dire l'iceberg, de considérer que l'économie marchande, dans toute sa complexité, que c'est si elle est complexe, c'est rien à côté de la base émergée de l'iceberg sur laquelle elle repose et sur laquelle elle flotte quand même. Et bien, ça suppose effectivement une compréhension du rôle des politiques publiques, des investissements qu'il faut faire, de surveiller des choses qui peuvent être, qui sont fragiles.
Puisque monsieur posait la question tout à l'heure, vous disiez, ramasser le propos, de quoi on parle, quoi. Je ne comprends pas de quoi on parle. Bon. On parle d'une seule chose, quoi. En fait, on parle de quoi? De se dire, en fait, il faut tirer toutes les conséquences du fait que la valeur se forme davantage dans la circulation que dans la réification ou
la production
substantielle.
La production matérielle, entendons-nous, parce que même la pollinisation, c'est un fait très matériel.
Oui.
C'est un fait très matériel, mais c'est simplement un fait qui n'entre pas dans la vision. Où la lunette de décryptage, c'est comme si on était dans l'économie marchande avec une économie qui ne perçoit que des choses qui sont dans une certaine fréquence et qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas dès qu'elles sortent de ça.
Voyez les conséquences fiscales que ça pourrait avoir. Alors il travaille un peu là-dessus parce que du coup, si vous voulez, ça se rapproche. Alors, ce qui est popularisé dans le débat public sous le nom de taxe Tobin, hein, mais en un sens plus fin, la question de la taxation de partout où ça circule davantage que la taxation en stock, sachant que ce n'est pas des modèles irréalistes, moi, à mon avis, parce que dans la consommation courante, c'est déjà très largement le cas, en fait. Mais je vous donne un exemple hyper bête. Voyez la rapidité avec laquelle on s'est tous habitués au fait que quand on achète du transport, c'est-à-dire du train par exemple, ou de l'avion, pendant longtemps on l'achetait au nombre de kilomètres parcourus, c'est-à-dire les prix étaient relativement fixes et comparables, et puis tout d'un coup les entreprises se sont mises à nous imposer leur propre yield management, comme elles disent, hein, c'est-à-dire une inversion complète de la constitution du prix, c'est tout désormais, ça paraît tout à fait banal, mais on l'a intégré tout de suite, de payer du 1 au quintuple pour le prix d'un billet d'avion ou pour le prix d'un billet de train. Remettez-vous, il y a 20 ans, c'était pas du tout, c'était pas du tout normal, ça. Bon. Mais donc, pourquoi je prends cet exemple-là de la rapidité avec laquelle la fixation des prix dans le transport, par exemple, grand public, s'est faite? Parce que je trouve que c'est un argument de poids en termes de sur les questions fiscales, par exemple. Hein, parce que il y a des tas de gens qui disent que c'est irréaliste de se dire que il faut passer d'une taxation de la marchandise et de la valeur ajoutée incorporée à une taxation de la circulation. Des tas de gens qui disent c'est idéaliste des choses. Mais oui et non, parce que, vous voyez, par exemple, dans quelque chose qui est quand même pas anodin, qui est les transports en commun, en fait, on est complètement passé dans un système de ce type. Et on s'en est même pas rendu compte. Hein.
La valeur d'un bien information, c'est la valeur de la circulation. C'est le nombre d'usages, c'est le fait que ça repasse par de multiples usages qui l'enrichissent. Donc il est clair que si on est dans une économie où circulation, c'est une énorme partie de la valeur, c'est ça une matérialisation par rapport à ça. À ce moment-là, on a une crise redoutable des ciseaux fiscaux dans lesquels se débattent la droite et la gauche. La chose suivante, on n'a pas, dans une économie interactive complexe, en fait, l'intervention de la puissance publique requise pour la production de ce qu'on appelle la qualité de la population, notre fameux capital humain, la qualité des interrelations, la qualité de la coopération, la qualité de la confiance, tout ça, ça fait partie au fond de ce qui est aggloméré dans tous les produits, le moindre produit industriel. Vous savez que la Chine, par exemple, son problème, c'est qu'elle arrive à produire tout ce qu'on fait en électronique et en informatique dans les 3 mois, elle peut produire tout ce que vous voulez en 3 mois. Ce qui, pour le cycle d'informatique qui est de 3 ans, est déjà pas mal. Sauf que, de l'aveu même des compagnies qui font ça, elles vous disent, ce qu'on est incapable de faire, c'est de produire des produits innovants qui n'ont pas déjà été inventés. Parce que ça incorpore un système de la société d'ensemble qui est probablement fortement incompatible avec la phase encore très autoritaire dans laquelle fonctionne la Chine. Et on la voit, c'est-à-dire que la Chine est prête à se couper de Google pour des raisons de contrôle et de censure absurdes, enfin très très violentes, il y a des problèmes, mais la chose est très simple, vous avez le tiers des utilisateurs chinois de Google pour qui c'est un instrument de travail fondamental, qui ont dit, nous, ça va nous couler. Et c'est les universitaires, les chercheurs, les start-up, tout ça, ils savent que ça va coûter en arriération chinoise considérablement. Donc, j'ai l'impression que, si vous voulez, toute cette utilisation le rôle des politiques publiques dans la production de ça, et dans l'incorporation de tout ça, eh bien, c'est ce qui définit le caractère innovant ou pas innovant d'une économie. C'est ce qui définit sa capacité, l'endroit où elle se place dans la gradation internationale. Et ça n'a pas à voir simplement... Par exemple, l'incorporation, c'est ce qu'on appelle le local, du local, hein, d'un local réel, authentique, interconnecté, etc., qui peut être d'ailleurs moderniste ou traditionnel, on s'en fout. Mais dans la production, c'est un élément. C'est un élément de singularisation. C'est un élément qui fait qu'on la reconnaît. Donc, et ça peut être n'importe quoi. C'est, par exemple, Avignon, je dis toujours, Avignon est une ville comme il y en a 250 en Europe et qui ne mérite rien. C'est-à-dire que vous retirez le festival d'Avignon, c'est même pas le Palais des Papes qui la sauve. Parce qu'il y a 25 châteaux en Italie, en Espagne, qui sont bien plus beaux que là. C'est le festival d'Avignon, c'est-à-dire c'est le rassemblement du Ligne, du Hof, pendant 15 jours, 3 semaines, qui fait qu'Avignon est devenu dans le monde entier. Et toutes les villes essayent de se faire connaître maintenant comme ça, parce que c'est donc pas lié à un patrimoine matériel monumental, c'est lié à un patrimoine immatériel de connexion, de connectique, qui est un phénomène bien réel, parce que les intermittents, les unes, les autres, ils sont bien là, et les troupes de théâtre sont bien là pendant 3 semaines dans la ville. Ils sont posés là, et c'est ça qui constitue le ferment.
Est-ce que vous voulez poser la question de la capture de la valeur dans ce capitalisme économique? Il y a la valeur qui se forme dans la circulation. Comment ça se fait finalement?
c'est la compréhension.
Et cette mère qui, grâce à Facebook, est rentable en tant que telle. Finalement, si vous avez des exemples petits, parce qu'il y a Facebook, il y a Facebook.
Non, mais c'est
quelqu'un,
c'est tous les réseaux sociaux,
etc. Les modèles rentables, en fait, vous voyez bien, je suis désolé d'être aussi basique, mais ils sont au barycentre du triangle. Mais le fait de dire ça, c'est déjà quand même une nouveauté. Vous voyez, parce que d'habitude, la question de la rentabilité, on
était là-haut, beaucoup
là-haut. Et désormais, au milieu. C'est-à-dire, évidemment, il faut les trois choses, quoi. Mais il faut quand même les trois. C'est-à-dire, si vous n'avez que l'angle du haut, c'est-à-dire, pour reprendre un peu la discussion qu'on avait, hein, c'est-à-dire, si ça ne s'adapte pas, à mon avis, à ce dont vous parliez précisément. Hein, alors, peut-être. Non, mais peut-être. Je ne sais pas vraiment, je ne connais pas bien. Ce que je veux dire, c'est que si on pose la question uniquement du point de vue de la seule légitimité, vous voyez, c'est comme si on regardait l'ensemble du triangle uniquement par ce point de vue-là, quoi. Mais il faut avoir les deux autres.
Il faut capter surtout les deux autres. Et la captation, vous voyez bien que les entreprises arrivent à capter des externalités positives, elles peuvent le faire de façon intuitive, elles peuvent le faire de façon raisonnée. C'est évident que si elles ne comprennent pas ce que c'est qu'une externalité positive, elles peuvent aller se coucher. Moi, je pense que les entreprises sont définies aujourd'hui comme captatrices d'externalités positives. Et que les entreprises qui réussissent le mieux, et c'est une évidence quasiment inapplaudissable, elles vont avoir évidemment des ratios, des performances financières d'autant plus fortes qu'elles captent des externalités positives, forcément, puisqu'en termes de comptabilité privée, elles captent des choses qu'elles ne payent pas. Elles captent des inputs qu'elles n'ont pas à payer commercialement. Donc évidemment, elles vont avoir dans un output, par rapport à ce qu'elles payent comme input commerciaux, il va sembler qu'il y a une productivité phénoménale. Simplement, dans l'imputabilité de la productivité, on a une forte partie d'externalités positives qui ne leur sont pas attribuables à elles propres, mais qui sont attribuables au halo qui les entoure, à des convergences futures qui sont anticipées par les financiers, à des convergences des complémentarités territoriales ou partenariales qui n'apparaissent pas dans les comptes, notamment patrimoniaux de la firme. Donc, si vous voulez, la captation d'externalités positives, c'est... Alors, après, on peut capter des externalités positives comme un chasseur, on vient en néolithique de ce point de vue-là. On peut le capter intelligemment, c'est-à-dire en prélevant sur le milieu, tout en sachant que si on prend tout, et qu'on pille, il n'y aura plus de renouvellement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une attitude synergétique par rapport aux externalités, ou une attitude environnementale ou écologique. Vous savez que vous pouvez prélever de l'eau potable, tant de milliards de litres, mais vous savez que si vous prélevez cette eau et que vous la salopez, au bout d'un moment, l'eau que vous allez prélever va à son tour être salopée. C'est le problème de la Chine en ce moment. Donc il y a une gestion de ces externalités. Il y a une gestion de l'endroit de la firme. Ça, c'est très intéressant parce que avant on avait tendance à dire ce qui est dans la firme, je connais, c'est clôturé, je gère, je suis poste. D'ailleurs, camembert pour les gens qui viennent de l'extérieur. Le reste, c'est la puissance publique, je m'en fous, j'ai payé mes impôts, elle fait son boulot. À partir du moment où vous avez les ressources que vous avez dans le territoire, vous devenez responsable par rapport à ce territoire. Vous êtes non seulement mécène, vous êtes acteur, vous êtes présent dans la société civile, vous êtes présent dans la politique et tout, mais vous avez des responsabilités quant à la gestion délirante ou au contraire raisonnable ou rationnelle des trucs. Et ça fait une responsabilité qui est compliquée, parce que d'un certain point de vue, vous êtes obligé, vous, si vous êtes manager, d'expliquer à vos actionnaires qui regardent simplement le résultat financier, de leur dire, oui, mais vous comprenez, il y a des choses qu'on a, des charges qui ne sont pas strictement liées à notre... Alors qu'est-ce que vous faites en général ? Vous passez ça dans le budget de publicité, vous passez ça dans le budget du prestige de l'entreprise. Mais vous n'arrivez pas à mettre un nom en disant qu'il y a telle et telle externalité positive. Parce qu'à ce moment-là, on peut aussi vous dire, mais alors pourquoi vous ne les internalisez pas ? Alors vous allez dire que ça coûterait trop cher. Ou vous allez dire parce qu'on ne peut pas contrôler. Pourquoi actuellement le problème des bonus dans la finance, à quoi il tient ? Il tient au fait que les gens qui sont dans les salles de marché par rapport aux banques de dépôt classiques détiennent des connaissances, qui sont des connaissances, et là il y a eu des études extrêmement fines que je cite dans mon dernier livre, là qui va paraître, ils détiennent des connaissances qui sont des connaissances de réseaux qui n'appartiennent pas à la firme. C'est-à-dire qu'ils ont des réseaux, ils se passent des tuyaux entre les uns et les autres, qui sont, parce qu'ils sont un marché, ils changent de grande banque et tout, et l'entreprise est incapable d'avoir le rapport classique qu'elle a avec un salarié. Un salarié, on le contrôle, il a son salaire, et en échange de quoi il a sa prestation et tout ce qu'il fait.
Et il a un niveau de substituabilité assez élevé.
Et là, relativement ce sont des gens qui sont insubstituables et qui sont détenteurs de choses qui sont à moitié à l'entreprise, à moitié pas à l'entreprise. D'où d'ailleurs l'histoire des stock options. Ça s'est traduit par le fait que la forme de rémunération salariale ne marche plus. C'est-à-dire, elle n'est plus pertinente. Donc, dans la réaction des gens à maintenir le système des bonus et des primes, bien sûr, il y a de la mauvaise foi, de la tentative de motiver, et il y a les trucs hiérarchiques de l'ensemble de la gestion de la main-d'œuvre, d'ensemble, y compris l'agent de la banque de dépôt qui est considéré comme n'apportant pas énormément au cash flow de l'entreprise et de la banque. Mais il y a aussi le fait que si on a un problème de gouvernementalité de ces gens. Et la gouvernementalité, moi je l'avais dit par défaut, comme vous avez un truc sur ordinateur, un système par défaut, des externalités, c'est la finance. C'est-à-dire que c'est la finance qui gère la gestion de ce truc extrêmement compliqué qui est hors la firme, qui est à moitié un pied en dehors de la firme, ou qui découvre des ressources internes de la firme qui ne sont pas visibles à un diagnostic immédiat. D'où cette histoire de comparabilité, de paramètres, de scission. Et pourquoi la finance n'arrête pas de dire aux entreprises « Vous êtes trop gros, illisible, coupez-vous en morceaux » ou après, quand les gens se sont coupés en morceaux, elle leur dit « Regroupez-vous ». Et c'est vrai aussi bien pour les évaluateurs des laboratoires publics qui n'arrêtent pas de leur dire « Coupez-vous en morceaux, rassemblez-vous, on n'arrive pas à comprendre, faites apparaître vos trucs, pourquoi tel truc est nécessaire, pourquoi telle chose ne l'est pas, faites apparaître des centres de profit analytiques pour qu'on voit les contributions des uns et des autres alors qu'on ne les voit pas, on ne comprend rien ». Etc., etc. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que la finance a une corrélation étroite avec cette montée en puissance des externalités. Voilà, je crois qu'il faut qu'on s'arrête.
Oui,
parce que
malheureusement, effectivement, on s'arrête. Moi, je dirais que rien que pour les 5 dernières minutes, je trouve que c'était absolument génial. Je vous remercie parce que, en tout cas, moi, ce que je comprends au travers de tout ce que vous avez dit, c'est une chose fondamentale, c'est que au-delà de l'obligation morale ou éthique pour les entreprises de se soucier de leur environnement hein, pour des raisons écologiques, sociales ou autres, elles ont besoin de le faire pour une raison qui est purement stratégique et alors pour le coup purement de survie commerciale, qui est effectivement de capturer, comme vous l'avez si bien dit, les externalités positives. Ça, pour moi, c'est une grande intuition. Oui. Donc, un tout grand
et merci. Monsieur disait de quoi on parle. Bon, moi, c'est juste de dire en un mot.
Non, ça fait travailler. Non,
ça
fait travailler. Ça fait
travailler. Mais en un mot, je voulais tout simplement raconter, c'est-à-dire que du point de vue des entreprises, on ne peut plus définir l'identité des entreprises depuis l'intérieur par leur patrimoine, leur identité, mais que ça devient uniquement un point d'interface. C'est ça qui définit l'identité.
Et pour le coup, ça, c'est vraiment une question philosophique.
Merci.
Bravo, merci beaucoup. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a le livre de Yann qui est en vente au prix de librairie. Voilà, merci à vous. Et donc, on se retrouve dans un mois pour le séminaire avec Christian Léonard sur la responsabilité dans les soins de santé en particulier.